à tous et à toutes, au micro Paul Ouzi Meyerson, qui a le plaisir de vous présenter une nouvelle émission de notre magazine Chronique pour la paix. Chers auditeurs, la gauche israélienne a fait son socle électoral le plus médiocre depuis la naissance d'Israël en 1948. Par gauche, j'entends l'union des partis travaillistes et Meretz qui n'enverront que 7 députés à la Knesset sur 120. Ce mauvais score pénalise le bloc centriste créé avec le parti blanc-bleu de Gantz pour faire pendant au bloc des droites mené par le Likoud de Netanyahou. En attendant, tout le monde continue là-bas à chercher une majorité hypothétique pour le Parlement. La gauche israélienne, berceau idéologique et politique de l'État d'Israël, celle de Ben Gurion, de Golda Meir, de Dayan et Rabin, est en voie de disparition. Depuis l'élection d'Ehud Barak il y a 20 ans, elle n'a plus rien gagné et son poids électoral diminue régulièrement. Il n'y a pas lieu de s'en réjouir. La gauche israélienne a sanctuarisé la notion d'État juif et démocratique et créé les institutions de l'État dans le cadre de ses principes d'émancipation de tous les citoyens du pays. Pourquoi ce recul historique? Quel futur pour la gauche israélienne? Nous allons le demander à Elisabeth Garot. Elisabeth Garot vit à Jérusalem où elle est engagée dans le combat social et politique depuis de nombreuses années. Elle a été candidate sur des listes de gauche aux municipales dans la capitale. Bonjour Elisabeth, vous êtes au téléphone?
Oui, bonjour Paul.
Bonjour, bonjour, vous m'avez entendu, vous m'entendez bien? Alors.
Oui, parfait, la liaison est bonne.
Très bonne, très bonne. Alors Elisabeth, première question. Comme je le disais, Avoda et Beretz n'ont réussi qu'à obtenir 7 mandats de députés. Est-ce que c'est vraiment grave pour la gauche israélienne? Et dites-nous où sont passés les électeurs de ces partis historiques.
C'est grave, oui, évidemment. Comme vous l'avez dit dans votre introduction, il n'y a pas de quoi s'en réjouir. On assiste à une disparition de la gauche. Bon, un constat, on n'est pas le seul pays. La France a vécu exactement la même chose. Des pays où respectivement la droite dure a un bon score, le centre droit a un bon score et la gauche disparaît et on va dire le pendant, même si comparaison n'est pas raison, le Mafdal par exemple ou les LR en France disparaissent aussi, ils ont fait des scores, le Mafdal a fait un score aussi catastrophique et la gauche fait un score catastrophique. Voilà, bon, ça c'est le constat. Maintenant, pourquoi? Érosion lente depuis plusieurs élections, les unes derrière les autres. À chaque fois, on espère le score à 2 chiffres. Le score à 2 chiffres, eh bien, on l'oublie. Et bien sûr, comme je vous le disais, il y a des raisons qui permettent d'expliquer pourquoi on est dans cette situation.
Ah oui, alors
il y a le fait, cette émergence de ce groupe blanc-bleu qui a aspiré les voix qui étaient gauche, un peu centriste. Donc ça, c'est une explication. Il y a le fait aussi d'une campagne qui n'a pas été très bonne, dans la mesure où on peut admirer chez Bibi sa pugnacité d'être allé chercher les voix une après l'autre, en faisant même des petites réunions, 4-5 réunions par jour. Alors que je pense que bon, les militants ont bien travaillé, mais c'est clair que c'était pas suffisant. Et puis évidemment, l'alliance qui a été une mauvaise stratégie, mais ça on le savait depuis la dernière fois, puisque je me souviens qu'un député travailliste, Omer Barlev, qui est un type tout à fait remarquable et à qui on avait reproché déjà lors des deuxièmes élections pourquoi la gauche ne s'alliait pas, et il disait parce que mathématiquement ça ne fonctionne pas de cette manière. 5 pour les travaillistes et 5 pour Meretz, ça ne fait pas 10.
Absolument.
Ça fait 6, 7. Et c'est vrai que ce soit la gauche ou la droite, à chaque fois qu'il y a des alliances, ça mécontente plutôt les gens. Ensuite, bon, il y a d'autres explications. Il y a le fait que beaucoup de jeunes de Meretz, par exemple, ont préféré voter pour la liste Arabe Unie. Il y a aussi au sein de la gauche, si on parle du Parti travailliste, le fait d'avoir un petit peu tout essayé. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout essayer ? Ça veut dire que depuis qu'Herzog, qui avait fait un score à plus de 20 mandats, est parti, alors ils ont pris Gabaye. Alors Gabaye a essayé de se dire « je vais aller chercher les voix des pauvres et les voix des traditionnalistes juifs, alors je mets la kippa ». Bon, il était sincère, il a une kippa sur la tête, il envoie ses gosses dans une école religieuse, il sort des phrases du style « la gauche a oublié ce que c'était qu'être juif », il parle de Jérusalem, capitale réunifiée, il est très sympathique avec les colons. Bon, ben, le problème, c'est que les gens choisiront toujours l'original à la copie. Donc, ça n'a
c'est
pas
une règle générale, ça. Hein.
Ça, c'est une règle générale. Après, il y a eu. Maintenant, il y a Pérez qui s'est allié avec Orly Lévy, qui est une très bonne députée, qui a fait un très bon travail social. Tout en ayant un passé, bon, un papa d'Ikoud bien connu, ensuite elle, à un moment donné elle a été avec Lieberman, bon, je pense que sa démarche aussi était sincère, bon, ils ont essayé de s'allier. Il y a aussi un problème un peu moins avouable au sein du Parti travailliste qui est que qui reste malgré tout encore assez clivant, une problématique Ashkenaz-Séfarade, qui fait que les Ashkenaz du Parti travailliste, ils votent pas pour Gabaye, ils votent pas pour Pérez, c'est clair.
Et comment vous expliquez ça, alors, cette permanence du rapport des Juifs orientaux avec la gauche? Pourtant, il y a eu plein de leaders marocains, orientaux, à la tête de Meretz ou d'Avoda. Orly Lévy, Amir Peretz, ils sont d'origine marocaine. Oui. Et Netanyahou, c'est un Ashkenaz.
Oui. Le Likoud a réussi le tour de force de leur faire croire que c'était leur maison. Le Likoud a certainement pas plus, je parle des premiers violons, hein. Ceux qui vont jouer des rôles, là, certainement pas plus de séfarades que les autres partis. Bon, le problème, il y a beaucoup de sociologues qui se sont intéressés au problème. Alors, il y a un mauvais diagnostic qui est le fait d'abord que la majorité des gens qui vivent dans la périphérie, qui pourraient être notre électorat naturel, ces gens-là sont des traditionnalistes très attachés à la religion et donc ils ont beaucoup de mal à s'identifier à des partis de gauche qui pour eux sont des parti laïque, donc ça c'est clair. Ensuite, il y a un mauvais diagnostic dans la mesure où ce sont des gens qui, contrairement à ce qu'on croit, et je ne nie pas du tout la misère en Israël, qui existe vraiment, le fait qu'on est en dernier dans les rapports de l'OCDE, c'est vrai qu'il y a beaucoup de misère en Israël, mais paradoxalement, les gens qui sont pauvres en Israël ont l'intime conviction qu'ils vivent beaucoup mieux que leurs parents. Ils ont une voiture, ils ont un écran plat, grâce au voyage low cost, ils voyagent, et on leur dit, et ils le croient vraiment, que tout ça c'est grâce au Likoud, que c'est grâce à Bibi Netanyahou, c'est grâce à l'économie florissante, et si l'économie est florissante et qu'on est la Startup Nation, et bien même s'ils n'en ont pas la manne, et bien c'est quand même grâce à Netanyahou qu'ils sont reconnaissants, et toutes les lois sociales que fera passer la gauche avec ses magnifiques députés et qui travaillent vraiment et qui font des choses tout à fait remarquables, bien, ça ne rapporte rien sur le plan électoral.
Ça veut dire que sociologiquement et idéologiquement, le pays a profondément changé. Est-ce que ça peut bouger, ça ? Est-ce qu'il peut y avoir un retour des valeurs de gauche dans un public qui traite tout le monde de gauchiste ?
Alors d'abord, il y a aussi cette stigmatisation terrible. Aujourd'hui, Israël est une société extrêmement clivée, hein, et ça, c'est le résultat du gouvernement Likoud et particulièrement de Bibi Netanyahou, vraiment divisé pour mieux régner. Le climat est vraiment terrible en Israël en ce moment. Hein. C'est pas bon de dire qu'on est de gauche, même si on l'assume. Oui. Donc il y a ça maintenant. Bon, nous, comme on est pris dans la politique ou comme vous, commentateur politique, alors on a un peu le nez sur le guidon et on a du mal à voir le long terme. Alors c'est vrai qu'on ne sait pas, est-ce qu'on peut vraiment enterrer un parti de façon définitive? Qu'est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce que sera le pays? Il y a beaucoup de choses qui changent, la société change plus vite que les politiques. Regardez maintenant ce qui se passe avec la liste arabe unie qui monte à chaque fois, qui fait des scores tout à fait remarquables. Et Meretz, même si c'est encore un petit peu tabou, parfois arrive vraiment à se demander si elle n'aurait pas intérêt à aller chercher dans la liste arabe unie les Arabes qui ont vraiment une volonté de s'intégrer, qui réussissent.
Et c'est une question que j'allais vous poser.
Faire un bout de chemin avec eux.
C'est une question que j'allais vous poser, Elisabeth Garot, justement. Est-ce que la liste Arabe Unie, qui est quand même une liste où se côtoient des gens très différents, hein, des nationalistes, des crypto-communistes, des islamistes, est-ce qu'il n'y a pas intérêt à se rapprocher avec la gauche israélienne? Parce que c'est un amalgame bizarre, qui vote il y a des voix qui mentent aux uns et des voix qui manquent aux autres. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, ils ont compris, eux, alors eux, ils ont réussi. C'est-à-dire, autant côté israélien, et que ce soit la droite ou la gauche, les alliances ne fonctionnent pas, autant chez eux, fonctionnent, mais ils font carton plein. Ils ne sont pas encore vraiment à leur maximum, hein, ils pourraient en faire encore plus, parce qu'il y a quand même, ça ne correspond pas vraiment à la population du pays. Bon, en plus, c'est vrai qu'ils ne sont pas tous, il n'y a pas une homogénéité, y compris parmi les Arabes d'Israël, 6% votent Likoud. Mm-hmm. Vous avez des Arabes israéliens qui votent chasse.
Je sais.
Donc là, il faut aussi penser à ça. Donc, mais alors, c'est vrai qu'ils ont fait une alliance entre les carpes et les lapins. Alors, c'est vrai que c'était difficile. Moi, j'avoue, quand j'ai parlé avec beaucoup de jeunes qui ont décidé de voter la liste unie, je leur ai dit, écoutez, je vote déjà pas pour les juifs orthodoxes, donc je vois pas pourquoi j'irais voter pour les islamistes. Mm-hmm. Alors, c'est vrai qu'avec les islamistes, on n'a franchement rien à faire. C'est vrai que, je répète, malgré toutes les accusations de traîtrise, Avoda et Meretz sont des partis sionistes, ce sont les partis fondateurs de l'État d'Israël, et nous sommes vraiment fiers et bien plantés dans notre idéologie sioniste, et nous ne la renions pas. C'est vrai qu'on n'a rien à faire avec les islamistes et rien à faire avec les Arabes qui sont vraiment sionistes. Mais ce n'est pas tous, et on peut aller les chercher. Et on peut très certainement, et aujourd'hui il y a vraiment une affirmation, une volonté d'intégration, et je pense qu'effectivement on peut recréer quelque chose.
D'accord.
Avec eux.
Elisabeth, est-ce que vous ne pensez pas que la question palestinienne, question pas célestinienne entre guillemets, a joué un rôle important dans l'érosion des partis de gauche? Parce que quand on regarde un peu l'histoire récente, on note que depuis la deuxième intifada en 2000, la gauche a fondu au soleil.
Écoutez, vous avez rappelé Barak, on n'a jamais autant construit dans les colonies que sous Barak. Et ça, je veux dire, il faut l'admettre. C'est vrai que le parti travailliste n'a pas eu une attitude claire. C'est vrai que deux pays pour deux peuples, ça a toujours été clair, mais le comment quand la possibilité d'un territoire palestinien se réduit comme peau de chagrin et devient pratiquement impossible. Et ça, c'est autant la responsabilité de la droite que de la gauche. Malheureusement, plus le temps passe, on est à plus de 50 ans d'occupation, il y a l'écrasante majorité des gens en Israël a toujours vécu dans cette réalité-là, ça devient une norme. Bon, et résultat, on en a très peu parlé. Ça a été, les élections de cette fois-ci ont été squeezées par le fameux deal du siècle où finalement Trump a pratiquement acculé Bibi Netanyahou à cette solution à deux États. Qui finalement, évidemment, ça a mécontenté son camp, mais
Elisabeth,
ça n'a pas mécontenté la gauche.
L'émission se termine, là. Voilà.
D'accord, on va arrêter.
On va arrêter, je regrette, parce qu'on a encore beaucoup de choses à se dire. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions, Elisabeth Garot. Et puis, je vous dis à bientôt sur notre antenne, alors.
À bientôt.
À bientôt. Chers auditeurs, je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve pour un autre rendez-vous dans 15 jours. C'était Paul Ouzimi, Arsène à l'antenne, avec Chronique pour la paix.